le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonjour et bienvenue sur l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canus 102.2, donc tous les jeudis des semaines paires de 18 à 19h. Aujourd'hui, nous recevons Julien de l'association Survie, qui travaille sur les questions de France-Afrique, donc tout ce qui se passe depuis 50 ans, depuis l'indépendance des pays d'Afrique, avec non pas l'ambition de décrypter ce qui se passe aujourd'hui, mais à la lumière justement de tout ce qui s'est fait au niveau de la France-Afrique, voir comment on en est arrivé là dans la région du Mali. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous présenter Survie et son activité?
Oui, donc Survie, la France-Afrique Survie, c'est une association qui a démarré au début des années 80 et qui lutte contre ce qu'on appelle donc la France-Afrique. Alors, la France-Afrique, c'est quoi, pour reprendre une image un petit peu parlante? C'est la partie immergée de l'iceberg des relations franco-africaines. Dans un iceberg, il y a toujours deux parties, une partie hors de l'eau, où on va retrouver tout ce qui est visible, tout ce qui est montrable, et tout ce qui va permettre de donner une bonne image de la France et de sa politique en Afrique. C'est l'aide, c'est la coopération, c'est la France meilleure amie de la
France. C'est une espèce de responsabilité pour les petits-enfants qu'elle a laissés.
Voilà, exactement. Et puis c'est le fait que voilà, on est les meilleurs amis de l'Afrique. Sans nous, l'Afrique, il y a personne qui vient l'aider. Et quand on plonge en dessous du niveau de la mer, on constate que la plus grosse partie de l'iceberg, en fait, c'est tout ce qu'on veut pas montrer. Et ce qu'on veut pas montrer, c'est les relations d'influence, c'est l'exploitation éhontée des richesses, c'est l'organisation de coups d'État, c'est des liens politico-mafieux, etc. Et c'est tout ça qu'on va appeler la France-Afrique. Alors cette France-Afrique, elle démarre dans les années 60, au moment des indépendances. Le général de Gaulle va accorder leur indépendance à 15 pays d'Afrique francophone, officiellement. Mais dans le même temps, de manière officieuse, il va charger son bras droit, Jacques Foccart, de tout faire pour garder ces pays-là sous contrôle français. Alors pourquoi est-ce qu'il va... Pourquoi garder ces pays-là sous contrôle français? Il y a plusieurs raisons. Raison économique. La France exploite des matières premières et des matières de rente. Et la France doit continuer à les exploiter.
Et puis j'imagine qu'il y avait des investissements qu'on n'a pas forcément envie de perdre.
Voilà. Raison, on va dire, géopolitique. On est en pleine guerre froide et la France, les États-Unis ont chargé la France de faire le gendarme en Afrique. Il faut tout faire pour que ces pays-là nouvellement indépendants ne tombent pas sous l'escarcelle communiste.
Est-ce qu'il y avait un danger? Enfin, il y a eu des tentatives.
Il y a eu effectivement un danger, quoi. Enfin, il y a eu un danger, il y a eu des peurs. Voilà. Bon, après, est-ce que c'était fantasmé ou pas? Voilà. À partir du moment où, de toute façon, les indépendances ont été contraintes, je veux dire, effectivement, il y a plein de rébellions qui, ne pouvant pas se tourner vers le camp occidental parce que c'était le camp occidental qui les oppressait, se sont tournés vers l'URSS, alors qu'au départ, ils n'étaient pas forcément marxistes, etc.
Mais alors là, on pense qu'il peut y avoir aussi du trafic d'armes là derrière aussi.
Oui, il y a tout ça. Autre raison, ça permet à la France d'avoir un cortège d'États clients au sein de l'ONU et ça renforce son rôle de grande puissance. C'est-à-dire quand elle va proposer une résolution, elle n'a pas une voix, elle en a 17 avec les pays qui
sont obligés de voter comme elle à tous les coups, ça voilà, fait partie de l'accord tacite.
Voilà, c'est une sorte d'accord tacite. Et puis dernière raison un petit peu politico-financière, c'est que l'extraction des matières premières, l'exploitation des cultures de rente, il y a de la corruption dessus et ça dégage une manne financière importante qui, jusque-là, venait financer le parti gaulliste. Et il faut continuer à financer le parti gaulliste de cette manière-là. De Gaulle a besoin d'argent pour que son parti vive. Et c'est pas anodin si on retrouve à la tête des finances du parti gaulliste Jacques Foccart. Donc voilà quoi. Alors ça va se mettre en place, ça va se mettre en place par la corruption, ça va se mettre en place par l'organisation de coups d'État, d'élections truquées, etc. Voilà. Et on va créer cette sorte d'international de dictateur qui va être inféodé à la France.
Alors dis-moi si j'ai bien compris. Finalement, ces gens-là qu'on aide avec notre grande générosité, en vérité, t'es en train de nous dire que c'est plutôt eux qui nous nourrissent avec leurs ressources naturelles. En fait, au lieu de les aider, on s'enrichit grâce à eux. Mais ce que tu viens de nous dire, c'est que c'est pas seulement pour les entreprises françaises. Il y a aussi des partis politiques qui prennent de l'argent au passage et peut-être même des personnes privées, en fait.
Alors, pendant très longtemps, Ça a été des partis politiques qui se finançaient. Pendant très longtemps, c'était les partis au pouvoir. Donc, ça a été en grande partie le parti gaulliste. À partir du moment où les gaullistes ont quitté le pouvoir en 74 avec l'arrivée de Giscard d'Estaing, lui-même va créer ses propres réseaux de financement, toujours liés à l'Afrique. Vous allez avoir ensuite un petit peu une dispersion, les réseaux Foccartiens issus de Jacques Foccart vont se scinder avec une partie qui va suivre plutôt Chirac, une partie qui va suivre Pasqua. Donc on commence à voir une atomisation. En 80, avec la gauche au pouvoir, on a l'impression que finalement les choses vont être réglées. C'est la gauche quand même qui arrive au pouvoir, etc. Et en fait, pas du tout. Plutôt que de mettre un coup de pied là-dedans, coup de pied que...
Mais elle avait un discours justement, on arrête la France-Afrique à l'époque.
À l'époque, on parle pas de France-Afrique. À l'époque, on parle pas de France-Afrique. Dans les médias, on n'en parle pas. Mais au sein des instances du pouvoir, on sait bien qu'il y a des financements. Et il y a des gens à la DGSE, nouvellement nommés, qui vont se rendre compte qu'il y a des diplomaties parallèles. Il y a des gens à ELF qui vont se rendre compte qu'il y a une diplomatie parallèle et qu'il y a des détournements à ELF et qui vont aller voir le président Mitterrand en lui disant, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et le président Mitterrand va avoir cette réponse qui est de dire cet argent a financé le parti gaulliste pendant 30 ans, il n'y a pas de raison que nous on n'y prenne pas notre gâteau. Et il va charger François de Grosouvre et j'ai oublié le nom de l'autre personne, de ses proches collaborateurs, de monter les réseaux PS, et ce qui vont très bien réussir
avec le prétexte, si c'est pas nous, ce sera d'autres qui en profiteront.
Voilà, l'idée, c'est les campagnes électorales coûtent cher. Voilà, il faut qu'à un moment, ça nous finance. Donc ça, c'est... Voilà.
Donc il n'y a pas que le prestige de la France et le tissu économique de la France. Il y a aussi des intérêts partisans.
Le tissu économique, oui, non.
Il est lié, j'imagine, que les grandes entreprises qui font quand même le pilier économique de la France, elles ne voulaient pas non plus que ça s'arrête.
Voilà, il y a tout ça. Quand on parle de tissu économique de la France, on pourrait croire que finalement, nous avons, nous et la population française a bénéficié de ça. Alors bon... Pour ce qui est, par exemple, de l'uranium du Niger, effectivement, on a sous-payé pendant très longtemps l'uranium qu'on allait acheter au Niger. Sur le coût de l'électricité, ça peut peut-être avoir un impact. Mais la plupart de cet argent, en fait, il va servir à financer des réseaux, il va financer la corruption, etc.
Des choses parallèles, en fait.
Voilà.
C'est de l'argent dont on ne sait pas qu'il existe et ça finance des tas de choses qu'on ne voit pas, en fait.
Voilà.
Mais ça finance aussi la corruption là-bas, sur place.
Ça finance la corruption là-bas.
Ceux qui sont mis au pouvoir. Voilà.
En fait, tout ce qui est parallèle à la loi et à la légitimité.
Voilà, exactement. Alors, il y a cet aspect financier, il y a aussi cet aspect, notre classe politique est issue de ces trafics-là, les Chirac, les Pasqua, etc. Et ça questionne et ça interroge sur l'état de notre démocratie, quoi. C'est-à-dire que non seulement il y a un impact sur la démocratie de ces pays-là, mais en retour, ça a un impact aussi. Des gens qui sont capables d'aller faire, excusez-moi du terme, mais des saloperies en Afrique... finalement vont être amenés à en faire ici. On voit les affaires qui peuvent coller à Pasqua, les affaires qui peuvent coller à Nicolas Sarkozy, les affaires qui peuvent coller au clan Mitterrand, etc. Voilà, c'est un rapatriement de pratiques mafieuses en France qui nuit à notre propre démocratie.
Finalement, à t'entendre, on se dit qu'il n'y a pas qu'en Afrique que la démocratie soit fragile. Chez nous, tellement brillant non plus.
Effectivement, après, bon, ça ferait l'objet d'une émission à part... Enfin, entière, est-ce qu'on est vraiment en démocratie, etc. Bon, voilà. Effectivement, pour moi, il y a clairement un impact de cette France-Afrique sur la démocratie et sur le déroulement des affaires politiques en France.
Oui, parce que j'imagine que ce sont toutes des décisions qui ne passent ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat.
Alors, justement
les procédures qui existent, qui font de la France une démocratie.
Effectivement, cette France-Afrique, elle a été pilotée, par ce qu'on a appelé la cellule africaine de l'Élysée, qui officiellement, depuis Nicolas Sarkozy, n'existe plus, mais qui est, dans les faits, il y a toujours, voilà, c'est quoi? C'est une sorte de groupe de proches conseillers, autour du président, non élus, non nommés, elle n'a pas une existence officielle, et les décisions sont prises au plus haut niveau de l'exécutif. C'est-à-dire que, pour une intervention militaire, pour toutes ces choses-là, le Parlement n'est effectivement jamais consulté. Et c'est là où ça pose effectivement un certain nombre de problèmes et un certain nombre de questions sur l'état de notre démocratie. Et on pourra peut-être y revenir si on aborde rapidement
le cas du Mali. Pause musicale.
Hey, yo, yo. Hey, a man come and dash me, I'll got a big mission. Be fighting justice around the world. Hey, la justice, c'est mon nom de préjudice. Well, la justice, je peux comme me donner un indice. Well, la justice, c'est mon nom de préjudice. Well, la justice, y'a comme que deux vices. Au troisième millénaire, nous en sommes toujours aux mêmes scènes. Oh. Je vois des soldats blancs buter des indigènes. Massacre manifestant dans les rues d'Abidjan. Oh. À peine sorti du Rwanda, les voilà en Côte d'Ivoire. Faisant fi de tous les scandales gravés dans nos mémoires. Ils propagent la mort, nous donnent tous les torts. Que des peuples innocents qui payent toujours de leur sang. La folie meurtrière de ces seigneurs de la guerre. J'en ai marre de payer, nous voulons maintenant manger. Voilà justesse, dans ce monde de préjudice. Voilà justesse, je veux qu'on me donne un indice. Voilà justesse, dans ce monde de préjudice. Voilà justesse, y'a comme que de vice. Voilà justesse, ouais. Les résistants de la France étaient-ils des terroristes? Pourquoi appeler les terroristes de ce qu'ils résistent? Où sont les héros et où sont les fachos? On a vu de A à Z les crimes de la patate. Sous les yeux laxistes des mêmes impérialistes. Mais l'Irak sans pétrole inspire soudain de rôle. Et on veut que tout le monde planche sur la buée du mensonge. Tous ces gens qu'on trompe et tous certains qu'on pompe. Mais les pingouins d'Alaska connaissent bien le tralala. Voilà justesse dans ce monde de préjudice. Voilà justesse, je veux qu'on me donne un indice. Voilà justesse dans ce monde de préjudice. Voilà justesse, y'a comme que de vice. Voilà justesse, voilà justesse. Y a-t-il une exclusion africaine des droits de l'homme? S'il y a une humanité, nous voulons déjà le minimum. Minimum de respect, ne fût-ce que pour ce conseil. Toute notre sueur donnée pour leur reconstruction. Après notre sang versé pour leur libération. Mais ferme la frontière, on est de la misère. Qui fabrique dans le monde, avec qui le mettre à la ronde. La supercherie recyclable d'un système capitaliste. Fondé sur des bases primaires d'une société égoïste. Avec tout ce qui se passe, faut pas se voiler la face. C'est la discrimination en termes de classe et de race. L'Européen blanc,
étranger.
L'Américain blanc,
étranger.
L'Africain blanc,
étranger.
L'Africain noir,
immigré.
Chinois, arabe,
immigré, immigré.
L'Américain noir, étranger, immigré, selon son pouvoir d'achat.
Yeah. Voilà justesse,
dans ce monde de préjudice.
Voilà justesse,
je veux qu'on me donne un indice.
Voilà justesse,
dans ce monde de préjudice.
Voilà justesse,
y'a comme que de vice.
Voilà justesse, ouais. Y'a comme que de vice, ouais. Je veux la justesse.
Sur 102.2 Radio Canu avec Julien de l'association Survie. Donc, on a commencé à faire un petit état des lieux, une petite rétrospective, expliquer ce qu'est la France-Afrique depuis 50 ans. Et donc là, on va peut-être repartir et se consacrer justement à la question du Mali et de l'historique.
Alors oui. Alors sur juste d'abord, enfin que ça soit bien clair, ce n'est pas ni de mon ressort ni de mes capacités et ni de la légitimité de Survie d'essayer de donner une explication parfaite de la crise malienne. Elle est en train de se passer. On n'est pas des journalistes. Les journalistes ne font, je trouve pas eux-mêmes forcément leur travail. C'est pas, enfin c'est difficile pour nous d'expliquer vraiment les tenants et les aboutissants, etc. Les choses sont en train de se faire et voilà. Et j'ai ni les compétences ni l'envie forcément de le faire. Mais voilà, pour revenir un petit peu globalement sur cette histoire malienne, alors il y a comment on est arrivé là. Il y a, on peut le faire de deux manières. On peut avoir deux réponses. Une première réponse historique. Donc le Mali, c'est un pays donc de la zone sahélique, 14 millions d'habitants. Et il accède à l'indépendance. Alors en fait, le 20 juin 1960, vous avez la Fédération du Mali, qui est composée du Soudan français, qui est l'actuel Mali, et du Sénégal, qui accèdent à l'indépendance. De manière conjointe, ils sont regroupés sous une fédération. Très rapidement, il y a des dissensions au sein des deux parties. Et le Sénégal, en août, se détache de la fédération et proclame sa propre indépendance. Le 22 septembre 60, le Soudan français va lui-même donc déclarer son indépendance tout en gardant le nom de Mali.
Et ça, ça s'est fait quand même sans trop de heurts ou avec d'un commun accord ?
Sans trop, pas de heurts, des dissensions, mais pas de heurts. Donc Modibo Keïta va prendre la tête de cette république malienne jusqu'en 1968 où il est renversé par Moussa Traoré, un militaire, qui va instaurer une dictature assez dure qui va durer jusqu'en 1991. En 1991, Amadou Toumani Touré, qu'on va appeler ATT, qu'on appelle ATT si vous entendez maintenant dans les médias, c'est souvent, on va parler d'ATT, qui est un militaire, va renverser Moussa Traoré et après une période de transition d'environ un an, va organiser des élections où il ne va pas se présenter et donc les militaires vont laisser le pouvoir aux civils. ATT, en 2002, va se désengager de l'armée et va donc se présenter lui-même à des nouvelles élections et va être élu. Il est élu pour un premier mandat et en 2007, il est réélu. Donc voilà. Alors, ce pays est issu de la décolonisation avec des frontières toujours un petit peu compliquées, etc., avec des peuples qui sont pas forcément...
Donc les voisins du Mali, si on peut les
voisins du Mali, il y a le Burkina, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, et qu'est-ce que j'ai oublié. Il y a l'Algérie.
L'Algérie, voilà.
Et je sais pas si j'en oublie pas sur au niveau de l'Est, les auditeurs corrigeront de même, quoi. Il y a toujours eu, on peut dire, un problème Touareg dans cette région. Les Touaregs ont toujours été un petit peu rétifs à toute forme de pouvoir sous les empires avant la colonisation. Pendant la colonisation, ils ont toujours donné un peu de fil à retordre aux Français. Et dans le nouveau Mali indépendant, ça va être pareil. Il va y avoir des révoltes, notamment dans les années 60, qui vont être réprimées. Et dans les années 90 aussi. Des révoltes qui vont démarrer au Niger, qui vont s'étendre au Mali.
Et qui était dû plus à des questions économiques, de culture ou vraiment politiques ou...
Il y a un petit peu d'étroit. Il faut voir que ce sont des populations arabo-berbères et qui n'ont jamais vraiment été intégrées
ni de l'un côté ni de l'autre.
Il y avait des nomades, non, parmi eux.
Alors il y a des nomades, mais c'est pas forcément. Vous avez des peuples qui sont nomades, etc. C'est surtout le problème que voilà, pour beaucoup de Maliens. Et c'était des étrangers qui vivaient au Mali. Donc voilà, et ils vont être traités en conséquence, etc. Et eux vont se sentir un petit peu déclassés, un petit peu sous-citoyens. Donc en 90, il y a des révoltes qui partent au Niger, qui s'étendent au Mali. Elles vont être durement réprimées. Ça va durer 5-6 ans, jusqu'en 96, où il va y avoir signature d'accord de paix entre le gouvernement malien et les rebelles Touareg. Et ce qui va donner lieu à un exode des groupes Touareg, des ex-rebelles Touareg, qui vont quitter le Mali et qui vont aller se faire engager dans l'armée libyenne.
Et quand tu dis qu'il y avait un accord de paix avec des représentants, il y avait vraiment une représentation, ils étaient organisés.
Il y avait des groupes. Voilà. Oui. Donc effectivement, il y a eu des signatures, etc. Et une partie des groupes ex-rebelles, mécontents des accords, etc., sont allés se faire engager dans l'armée libyenne. Kadhafi en avait besoin pour servir de supplétif dans sa guerre contre le Tchad. Ils vont y rester jusqu'à la chute finalement du régime de Kadhafi.
Donc c'est des hommes qui ont vécu les armes à la main toute leur vie et qui vivent de ça en fait.
Et qui vivent un petit peu de ça.
C'est leur métier.
Voilà. Et en 2011, suite à l'effondrement donc du système Kadhafi, ils étaient plus du tout en odeur de sainteté parce qu'ils étaient représentés comme des oppresseurs en plus étrangers. Ils vont rentrer, une partie va rentrer au Niger dont ils venaient, ils vont être désarmés et une partie va rentrer au Mali et là ils vont pas être désarmés et ils vont relancer un petit peu les révoltes Touareg. On arrive donc en 2012, début janvier 2012, où vous avez ce qu'on appelle le MNLA, qui est donc une recomposition un peu de ces groupes Touareg rebelles. Donc le Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui va lancer des attaques sur des camps militaires avec l'aide de Ansar Dine, un autre groupe de rebelles Touareg, et ils vont lancer des attaques sur des camps militaires au nord du Mali. Et faut savoir qu'à cette période, et sous le deuxième mandat de ATT, il y a eu beaucoup de corruption, l'État est désorganisé et l'armée va subir plusieurs revers. Ce qui va fortement mécontenter et non seulement les hommes de troupes, qui ont l'impression qu'on les envoie se faire tuer avec aucun armement, il y a pas de stratégie claire, etc.
Ils sont moins bien lotis que les rebelles qui les attaquent.
Voilà. Et ça va mécontenter la population. Ce qui fait que le 22 mars, il y a un coup d'État qui va être mené par des militaires et qui va chasser ATT du pouvoir et qui va prendre le contrôle du Mali et suspendre la constitution. Très vite, la CEDEAO sous
La CEDEAO.
Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, sous la pression de la France, va condamner ce coup d'État.
Donc c'est l'ensemble des chefs d'État africains.
C'est l'ensemble des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest.
Voilà.
Donc,
la communauté internationale aussi, dans son ensemble.
La communauté internationale va suivre, etc. Mais pour la CEDEAO, en fait, la CEDEAO, c'est qui ? C'est une sorte de consortium de dictateurs. Le précédent d'un coup d'État, ça leur fait peur, parce que eux-mêmes se retrouvent dans certains cas avec des rébellions, etc. Et donc, ils ne peuvent pas accepter qu'un des leurs se fasse débarquer comme ça.
Ça pourrait donner des idées à d'autres.
Voilà. Ils veulent pas cautionner ça.
Donc, du coup, on va se retrouver avec un vide constitutionnel. Il y a quasiment plus d'État malien. On a une junte qui tient certaines rênes. On a la CEDEAO qui va imposer un président de l'Assemblée nationale, etc., un premier ministre, etc. Ça va être négocié, mais avec des rancœurs un peu de part et d'autre. Mais c'est ceux qui se retrouvent à la tête du Mali n'ont pas été élus démocratiquement, etc. On se retrouve avec une sorte de vraiment un vide constitutionnel. Et devant ces problèmes, les groupes Touareg appuyés par Hakmi, etc.
Ils peuvent encore plus jouer sur le mécontentement de la population.
Et puis surtout, ils vont conquérir une partie du territoire et proclamer l'indépendance de l'Azawad.
Parce qu'il n'y a personne en face pour les empêcher.
Ces groupes rebelles, ils sont suivis par toute la population touareg ou ils ont une assise un peu, on va dire, de la base.
Là, j'avoue que j'ai pas forcément de réponse. Pour le dire franchement, j'en sais pas grand-chose. Le MNLA a une certaine représentation, le Ansardin aussi, mais est-ce que c'est toute la population touareg, etc. Ce qui est sûr, c'est que la population touareg a une rancœur. Après, est-ce qu'ils sont tous d'accord pour aller soit conquérir le Mali, soit mettre la charrette partout. Ça, j'avoue que j'ai aucune réponse là-dessus, quoi. Bon, finalement, on va arriver donc à cette proclamation d'indépendance. Très rapidement, le MNLA, qui est un petit peu à l'instigation de tout ça, va se faire dégager par Hakmi et par Ansardine.
Alors que le MNLA, c'était le parti laïque, c'est ça?
Voilà. Alors, oui. C'est plutôt les Touareg laïques, etc. Oui. Il y avait une sorte d'accord. Tant qu'on avançait qu'on conquiert
du terrain,
on était ensemble. À partir du moment où il faut se partager un petit peu le butin, les dissensions commencent à arriver, quoi.
Et c'est les laïcs qui se font virer et qui perdent la main, en fait.
C'est les laïcs entre guillemets, oui. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on définit plutôt comme étant les laïcs. Et finalement, bon, voilà. Du coup, il va avoir la CEDEAO, enfin, toujours sous l'impulsion française. L'UA et la CEDEAO vont faire des demandes d'intervention à l'ONU, etc. Ça va être négocié. Il y a des résolutions qui vont être votées qui stipulent que il peut avoir intervention armée, mais que celle-ci doit se faire dans le cadre avec une force interafricaine et sous commandement africain. Et qu'en aucun cas, si il peut avoir une assistance logistique française, il ne doit avoir d'intervention
armée.
Militaire française, quoi.
Mais par contre, tu nous as dit que l'armée, du moins au Mali, je sais pas si c'est comme ça dans les autres pays africains, elle était quand même pas en pleine forme et très équipée.
Voilà, c'est pour ça
équipée.
Que finalement, cette intervention, elle avait été plus ou moins décidée pour septembre 2013. Le temps qu'il y ait une formation, le temps qu'on arrive à avoir le nombre d'hommes suffisants, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé début janvier de cette année? Le Mali, voyant des colonnes de pick-up de terroristes qui avançaient vers le sud et qui menaçaient
Nous dit-on,
de prendre Bamako et certaines grandes villes, le président de l'Assemblée malienne va faire une demande à la France d'intervention et la France va intervenir. Ce qu'on va nous présenter, c'est que c'est une intervention dans le cadre de l'ONU. Alors, sur cette intervention, finalement survit. Est-ce qu'il fallait le faire ou pas en situation d'urgence? Je pense que pour un certain nombre de Maliens du Nord qui ont subi les exactions des groupes terroristes, effectivement.
Ils soufflent un peu, oui.
Je pense que ça leur permet de souffler. Après, c'est pas ça. On n'a pas vraiment un discours sur est-ce qu'il fallait le faire ou pas à survie. Par contre, le discours, c'est est-ce qu'il fallait le faire dans ce cadre-là. Et c'est est-ce que l'unanisme. Ça se dit, ça
je sais pas, l'unanimité.
L'unanimité, plutôt, oui. C'est peut-être mieux, pardon.
Après, il y a l'unanisme, mais on n'était plus dans le même sujet.
C'est pas la même chose. Est-ce que l'unanimité qui a prévalu dans les médias, au sein de la classe politique française, c'est ça qu'on interroge, nous. On nous a présenté cette intervention française comme étant une intervention demandée à la demande du Mali dans le cadre de l'ONU. Dans le cadre de la charte de l'ONU, ce qui n'est pas.
C'est pas la même chose que les résolutions qui ont été passées.
C'est pas la même chose que les résolutions qui ont été passées. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces résolutions, elles stipulaient que c'était une force armée africaine qui devait intervenir là.
En septembre 2013.
Voilà. Alors, en septembre 2013, disons que c'était l'agenda qui avait été posé pour permettre l'organisation de ça. Là, c'est la France qui intervient et qui ne brandit pas pour son intervention les résolutions qu'elle a fait voter, elle va brandir la charte de l'ONU en disant il existe au sein de la charte de l'ONU des articles qui stipulent que voilà en cas d'attaque un pays peut intervenir à la demande d'un autre, etc. Mais dans les médias ça va pas être aussi clair que ça, c'est-à-dire voilà on va nous dire c'est dans le cadre de l'ONU. Donc en nous présentant, voilà, il y a eu et finalement ce qui va passer, c'est qu'effectivement il y a eu des résolutions, elles ont été votées, donc on doit intervenir dans le cadre des résolutions. En fait, c'est pas vrai.
Oui, la France n'a pas été mandatée par l'ONU.
La France n'a pas été mandatée pour cette intervention.
Oui, ce que l'ONU avait décidé, c'était autre chose et c'était que ce soit voilà. Une force africaine.
Maintenant, la France brandit plus ou moins l'étendard de l'ONU et cherche a posteriori, à se construire une légitimité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin parce que c'est quelque chose qui revient souvent.
Et qui louche quand même.
C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, en Côte d'Ivoire, où finalement, l'opération Licorne, donc, qui est intervenue au moment des troubles en Côte d'Ivoire en 2002, etc., il y a eu d'abord l'opération Licorne, l'armée française intervient, et ensuite...
On demande la permission à l'ONU.
Ensuite, on va dire à l'ONU, et on va leur dire, écoutez, maintenant qu'on est là, Si on s'en va, ça va être la catastrophe. Donc débrouillez-vous pour nous tricoter une légitimité, pour nous tricoter un texte
qui nous voilà. C'est oui, donc le principe, le fait accompli, on n'avait pas le choix.
Voilà. Donc la France met clairement ses partenaires devant le fait accompli et tout en brandissant le fait que derrière, attention, il y a du monde. Et effectivement, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne notamment, vont accorder une sorte de soutien, mais qui est assez timide. Et
oui, parce que pour l'instant, ils ne sont pas là, est-ce que j'ai compris?
En fait,
plutôt de la logistique.
C'est de la logistique.
Infirmière, ambulance, et pas une intervention
c'est
armée.
C'est surtout pas des interventions armées, pour plein de raisons. Les Américains.
Ils sont un peu loin, peut-être. Enfin, peut-être qu'ils ont des bases aussi en Afrique.
Il y a certaines bases, etc. Mais surtout, ils sont encore coincés en Afghanistan. Ouais. Les Français leur ont fait un petit peu un sale coup en quittant l'Afghanistan, etc. Donc voilà, ils sont prêts à la rigueur. Transporter des troupes, apporter un soutien logistique, mais certainement pas pour envoyer de l'armée. La France aussi dit, vous inquiétez pas, de toute façon, on va respecter le cadre des résolutions parce qu'il y a une force africaine qui est en train de se construire et qui va venir nous aider. Sauf que pour l'instant, cette force africaine, vraiment sur place, on parle de 100 personnes, de 100 hommes, alors qu'on nous en promettait 2000, etc. Donc, voilà, on se rend compte que la France a mis un petit peu ses partenaires devant le fait accompli et que maintenant elle essaye de les ramener, mais que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on veut bien nous dire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important parce que dans les premiers temps, je me rappelle le premier dimanche de l'intervention sur France, j'avais écouté une émission sur France Inter et c'était clair. Je veux dire, on intervient. On ne pouvait pas faire autrement, et vous inquiétez pas, derrière, déjà on a la légalité internationale derrière nous, et puis derrière, il y a du monde, on va pas être tout seul, etc. Pour l'instant, ça commence à devenir un petit peu dur, quoi. Voilà. Donc, voilà. Comment est-ce que, historiquement, de manière, on en est arrivé là. Après, il y a la deuxième réponse qu'on pourrait faire, qui est beaucoup plus globale, c'est pourquoi est-ce que finalement, on a des problèmes au Mali qui engendre du terrorisme, qui engendre du coup des sécessions, etc. Mais on pourrait prendre le cas du Mali, on pourrait prendre la Côte d'Ivoire, etc. La question c'est, voilà, pourquoi est-ce que le Mali finalement ne fonctionne pas bien? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne fonctionnait pas bien, etc. c'est le résultat de 50 ans, plus que ça, de 100 ans de colonisation, de 50 ans de décolonisation mal faite, avec de la corruption, avec une influence française néfaste, etc. Il faut voir que, par exemple, dans le cas du Mali, au cours des années 90, le Mali étant très endetté, le FMI, avec l'appui de la France, a imposé les PASS, les plans d'ajustement structurel au Mali, ce qui les a obligés à libéraliser toute une partie de leur économie, à arrêter le financement des scolarités, à arrêter le financement des services de santé, etc.
Et la France... les plans d'ajustement, si on traduit en langage de la rue, c'est qu'on oblige l'État à vendre tout ce qu'il possède, c'est ça, vendre tout ce qu'il possède, et ensuite on a un État qui a le titre d'État, mais qui a même pas de sous pour payer ses policiers, c'est ça, pas de sous pour faire des écoles, qui a du pouvoir soi-disant, mais qui a jamais les moyens d'appliquer son pouvoir. Parce que quand on entend plan d'ajustement, on a l'impression que c'est quelque chose de très bien. En fait, ce que tu es en train de nous expliquer, plan d'ajustement, ça veut dire que l'État se vide, se dépossède de tout ce qu'il avait, c'est ça.
Sans compter la diminution des dépenses publiques qu'on demande, donc c'est pas seulement ne pas payer des policiers, mais ne pas payer des enseignants, ne pas payer des médecins, des hôpitaux.
C'est un État qui s'affaiblit complètement et qui n'a plus qu'un titre, plus aucun pouvoir dans ce pays, c'est ça.
Et l'idée étant, avec l'argent récupéré des privatisations, on va pouvoir rembourser la dette. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer en Grèce, etc. Voilà.
Mais c'est terrible, parce que moi j'entends le mot plan d'ajustement, ça me paraît très bien, bien sûr qu'il faut s'ajuster.
Oui.
Enfin, je trouve que c'est important de bien rappeler ce qu'il y a derrière des mots qui nous paraissent très très présentables.
Donc ces plans d'ajustement structurel engendrent...
Structurel, en plus ça paraît magnifique.
Voilà, on va restructurer l'État malien.
Ça veut dire qu'on a vidé ces États de leur pouvoir.
Voilà, c'est clairement ça. Et là-dessus, donc, vous créez de la pauvreté. Il y a plein de services sociaux qui sont plus financés. Par contre, à l'inverse, vous avez tout un tas d'associations caritatives, islamiques ou de groupes, etc., qui eux vont continuer à être financés par pays du Golfe ou etc., qui eux vont pouvoir du coup aller dans les quartiers pauvres, etc., et dire ça se passe au Maghreb, ça s'est passé aussi en Égypte, etc. C'est regardez, voilà, l'État libéralisé ne vous finance plus, par contre nous allons continuer à vous aider. Et donc du coup on va créer, voilà, on crée des candidats pour ces groupes là quoi. Il faut savoir en plus que ces pays là étant plus ou moins en lien très étroit avec la France, il faut savoir que dans le cas de ces libéralisations massives, bien souvent ce qui s'est passé, c'est que on oblige ces pays-là à libéraliser, et c'est la France qui va récupérer une partie des contrats, quoi.
Oui.
Et
bien souvent, a priori, elle est la mieux placée pour racheter les entreprises qui vont être privatisées.
Bien sûr, et souvent, alors que normalement, il doit avoir des appels d'offres, etc., bien souvent, ces appels d'offres n'ont... C'est des choses qui sont, c'est juste là pour donner un semblant de légalité. Mais c'est comme ça qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des entreprises françaises comme Bouygues, France Télécom, Total, Vinci, etc., qui ont récupéré.
Ah ben, j'ai lu qu'il y avait Orange Mali.
Voilà, Orange a récupéré toute une partie de la téléphonie malienne. Voilà. Donc, on crée des États qui n'ont plus aucune force, qui ne peuvent pas permettre à leur population de survivre. On crée de la corruption, parce que quand on crée autant de pauvreté, forcément chacun va essayer de tirer son épingle du jeu, et ça génère la corruption, etc. Et donc on crée les conditions d'un effondrement général. Et maintenant on est en train de se poser la question, finalement le Mali n'était pas capable de faire face à ces problèmes parce qu'il est corrompu, etc. Mais pourquoi est-il corrompu? Pourquoi y a-t-il autant de pauvreté? Pourquoi est-ce que les armées africaines sont-elles aussi faibles? On est en train de nous dire la CDAO avait promis des troupes, mais ces troupes n'arrivent pas, la CDAO ça marche pas, finalement les instances internationales africaines sont pas organisées, etc. Mais c'est quoi ces instances? Ces instances, c'est un club de dictateurs le devenir de l'Afrique, ils s'en contrefichent. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils peuvent retirer de leurs différents états, quoi.
C'est ça ma réaction à ce que tu nous expliques, c'est qu'on nous dit « Ah, mais ces pays-là n'ont pas de maturité démocratique, ou ils sont pas organisés comme s'ils étaient un peu débiles et qu'ils sachent pas faire ». Tu es en train de nous expliquer qu'il y a des raisons bien concrètes, économiques, et qui leur ont été imposées, qui les amènent là où ils sont. C'est pas qu'ils savent pas faire, c'est que...
C'est qu'on les laisse pas faire.
Voilà,
c'est enfin, ça. Clairement, y a
c'est
des
pas qu'ils savent pas faire, que c'est pas leur culture, ou qu'ils sont pas assez intelligents, c'est que... voilà, il y a une série de faits, comme tu dis, qui les ont privés.
Effectivement, si on, y a quelque chose dont on parle jamais, c'est les sociétés civiles africaines. Alors, il faut voir que pendant très longtemps, effectivement, elles n'ont pas existé parce qu'il n'y avait pas d'espace. Mais de plus en plus, vous avez des États où la société civile commence... Elle a compris que de toute façon, opposition au pouvoir, finalement, les oppositions souvent ont été créées pour donner une façade démocratique, etc. Donc, sont récupérées par les pouvoirs, etc. La société civile africaine a compris que ça passerait pas par les partis politiques. Et donc, elle est en train de s'organiser. Vous avez des syndicats, vous avez des associations, etc. Au Gabon, ça marche. Au Sénégal, on a vu que ça marchait. Je veux dire, l'élection sénégalaise de l'an dernier, c'était pas gagné. Eh ben, c'est un soulèvement de la société civile sénégalaise qui a fait que les élections ont pu se dérouler et que les résultats des élections ne peuvent pas être contestés. Après, est-ce que le gars qui a été élu et sera mieux ou moins bien? On n'en est pas à ce niveau-là, mais déjà, au moins, l'élection a pu se passer. Voilà, on n'est pas. L'idée, c'est pas. Si on règle. Enfin, si on enlève cette France-Afrique, tout ira mieux. Enfin, tout ira bien, tout ira mieux, mais tout, forcément, n'ira pas bien. Les choses se construisent lentement, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne leur donne pas l'occasion de construire ça, les possibilités de construire ça, les choses ne se feront jamais, quoi.
Mais il faut aussi s'enlever de la tête qu'eux, ils savent pas faire parce que c'est pas leur truc, la démocratie.
Ah, mais clairement, et je dirais même quelque chose d'inverse, c'est que les problèmes... L'Afrique, depuis globalement les années 90, a subi les plans d'ajustement structurel, etc. Et ils savent très bien ce que c'est. Ils ont une très bonne connaissance de comment est-ce que on privatise des pans entiers de l'État, comment est-ce que du coup ça paupérise les populations, comment on peut essayer de lutter contre ça, etc. Et c'est pas anodin si, par exemple, un des fers de lance de la lutte contre les politiques d'austérité et de privatisation en Grèce et puis en Europe, c'est le CADTM. Le CADTM, c'est le comité d'annulation de la dette du tiers-monde et qui, historiquement, a toujours travaillé avec des Africains, etc., sur les problématiques de dette du tiers-monde et de plan d'ajustement structurel, etc. Et c'est pas anodin si c'est eux, maintenant, qui se retrouvent en fer de lance et, bien souvent... quand ils font des conférences, etc., ils font venir des Africains qui, eux, ont une connaissance beaucoup plus importante de ce que ça veut dire concrètement.
Ils ont pu constater
les effets, etc. Et je pense que, d'un point de vue des luttes aussi, les luttes sociales qu'on peut voir en Afrique, qui, de par leur pauvreté, enfin, je veux dire, leur manque de moyens, etc., ont été obligés de développer d'autres formes de lutte. Et je pense que les mouvements sociaux en Europe, et notamment les syndicats, etc., aurait tout intérêt à s'inspirer de certaines choses qui sont faites en Afrique.
C'est vrai que nous, là, bah justement, cette image, la démocratie des pays occidentaux fait que tout va bien, et les luttes sont pas aussi violentes, puisqu'il y a une espèce de pacification, que ce soit au niveau syndical ou au niveau même des mouvements sociaux. Et ce qui, effectivement, n'est pas encore le cas dans des pays du tiers-monde.
Voilà.
Ils ont beaucoup, effectivement, à nous apprendre sur la question.
C'est parce qu'il espère un vrai changement. Malheureusement, j'entends encore toujours le même cri. De toute façon, c'est pire qu'avant. Les mêmes magouilles, les mêmes deals. De toute façon, c'est pire qu'avant. Les mêmes qui pillent et tournent et volent. De toute façon, c'est pire qu'avant. Ceux qui parlent de changement, te perdent le vice. C'est devenu pire qu'avant. C'est pas de bouffe, pas de job, pas de thune, pas de job. Les promesses qu'on nous a faites s'évanouissent comme une bad joke. Les gens autour de moi, quand ils bouffent, c'est one time. Demande à qui de droit du pain, pour lui, c'est no time. Et je vois tous les jours les riches qui ne pensent qu'à nous dépouiller, distraire le peuple et les dévier. Tous les crimes vont les maquiller. Les prix augmentent tous les jours, oui, tout est devenu cher. L'eau, le gaz et le courant, oui, tout est devenu cher. Le prix du pain, le prix du sucre, le prix du riz, le prix du lait, le prix du bus, le prix des soins à l'hôpital, c'est devenu cher. Mais on ne veut pas de miracle, mais simplement des gestes forts, des actes forts, qui parlent aux gens, des signes forts.
demeure. Y avait des mecs honnêtes, mais le système en a fait des voleurs. La ville est pleine de surface et l'argent devenu le but. Pourtant des filles honnêtes, mais le système en a fait des putes. Confie un poste à qui tu veux, ils ne pensent qu'à voler la caisse. Baisse le froc pour la promotion des SC cartes des fesses. On exploite ainsi les sœurs, toute force est d'obtempérer. T'as pas le choix ou bien t'es viré. Ou alors c'est l'intérêt. L'intérêt qui quitte les dirigeants, les nourrit, puis les pourris. Pourriture qui vient du haut, attaque le bas et puis le pourri. Le flic vole le taximan, qui vole le Rossman. Alors le Rossman agresse les fils de flics ou bien de taximan. Agressé tous les jours par la richesse et l'opulence de tous ces nouveaux riches qui nous méprisent leur insolence. Limousine, vie de château, oublie les gars du ghetto. Le ghetto voulait le changement, tu bouffes les restes du gâteau. Oh yeah. J'ai dit en Afrique, le règne des dictateurs. Le viol de l'imaginaire n'est pas un mythe, il me fait peur. Il nous viole ainsi la conscience, vole ainsi la confiance. Technique imparable qui de plus détruit la méfiance. Et tout satanique qui se resserre autour du cou. On prend des coups à tort et à travers de la vie on perd le goût. Alors on pense à fuir loin du continent, oui loin de tout. Et on va payer notre visa pour les prix d'or à tous les coups. Et les cerveaux du continent balayent la mer de l'Occident. Nettoie les chiottes et vendre la dope, tu veux savoir c'est irritant. On va me dire tu perds le temps, tu te répètes tout le temps. Mais quand je parle de révolution c'est pour le bien du continent. Je te jure le truc est bizarre, l'amnésie des mecs au pouvoir. Le président t'oublie, pourtant c'est toi qui donnes le pouvoir. Le truc est bizarre, l'amnésie des mecs au pouvoir. Le président t'oublie, oublie le président.
Voilà, avec Julien qui nous parle, qui nous donne son éclairage sur les événements du Mali. Je ne sais pas si on doit dire événements.
Et puis, je ne sais pas si on doit dire éclairage surtout. Mais bon.
Oh, mais si, moi je trouve que tu nous as bien éclairé au nom de l'association Survie qui s'occupe des problèmes de la France-Afrique. Et Julien nous a bien montré que la France, en décidant d'intervenir comme ça, n'avait pas suivi ce qui s'était décidé collectivement à l'ONU. C'est une décision que la France a prise de sa propre initiative. Donc on a envie de se demander pourquoi la France ? Qu'est-ce qui a pu motiver leur décision ? Est-ce qu'il y a des intérêts ? Est-ce qu'il y avait une crainte particulière ? Quels sont les intérêts français au Mali ?
Alors avant de parler des intérêts, voilà, la France en Afrique et la France en Afrique de l'Ouest, j'ai pu le dire tout à l'heure, avec la France-Afrique, historiquement, elle est implantée depuis longtemps. On lui a arrogé dans les années 60 un rôle de gendarme qu'elle a décidé de conserver, bien que maintenant, voilà, c'est plus forcément. Autant à un moment, les États-Unis avaient vraiment chargé la France et en disant vous faites ce que vous voulez, nous on regarde pas, mais il faut que ces pays-là ne tombent pas dans le bloc communiste. Autant maintenant, je veux dire, le marché s'est ouvert, les États-Unis, la Chine, etc. ont eux aussi envie de participer, enfin, de se goinfrer dans le gâteau africain.
Et aujourd'hui. Aujourd'hui, la France, l'affichage gendarme de l'Afrique, c'est peut-être pas très, très valorisant. Je pense pas que ce soit ce qu'elle cherche en tant que gendarme.
Enfin,
Non, mais grand-père, c'est quand même, c'est, le papa c'est... bienveillant, peut-être, non, qui est en son aile protectrice, non, et sa grande expérience de la démocratie.
Certainement que ce terme de gendarme de l'Afrique, c'est lié à fortement à la France-Afrique. La France intervient un petit peu quand elle veut. C'est elle qui fait la police. Et certainement que nos pouvoirs politiques, d'un point de vue de la communication, c'est pas vraiment terrible. Ça nous ramène à des interventions, etc., quoi. Mais d'un point de vue concret, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. D'un point de vue concret, c'est ce qui se passe régulièrement au Tchad. D'un point de vue concret, c'est quand même à peu près ce qui s'est passé là. Donc pourquoi la France est intervenue? Premièrement, elle est intervenue parce que c'était elle la plus à même d'intervenir, parce qu'elle a une capacité, l'armée française a une capacité de projection en Afrique, de par ses bases et de par sa logistique qui est assez importante.
Elle est sur place.
Elle est en partie sur place et elle a aussi des moyens, des bases qui sont des bases relais, mais qui lui permettent très rapidement d'intervenir. C'est-à-dire qu'on a diminué le nombre de bases, on a diminué le nombre de personnels militaires en Afrique, mais on a gardé des capacités d'intervention qui sont les mêmes. Donc ça a permis à un moment de dire, regardez, on enlève nos troupes armées de l'Afrique, donc on se désengage, mais dans les faits, d'un point de vue organisationnel, on peut intervenir aussi facilement. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles c'est certainement la France qui est intervenue, du fait aussi des liens historiques qu'elle entretient avec le Mali et qu'elle entretient avec la sous-région. Après, on peut se poser la question des intérêts français. Effectivement, pour l'instant, on nous vend l'intervention comme une intervention d'urgence pour sauver le Mali. Est-ce qui peut être le cas dans le sens où, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a des Maliens qui sont certainement très contents de voir les rebelles terroristes, islamistes, tout ce qu'on veut,
freiner,
etc. Après, il faut être très clair, et personne n'est dupe. Je veux dire, aucune grande puissance n'intervient dans un pays pour les beaux yeux des habitants du pays. Il y a des intérêts derrière, etc. Alors, c'est un exercice un petit peu difficile, mais bon, je vais essayer de me lancer. Mais voilà, je serai forcément incomplet, c'est forcément des hypothèses, etc. Mais voilà, la première chose qu'on peut voir, c'est la stabilité de la région. La France est très présente dans la région et dans la région du Sahel, au Niger, en Mauritanie, etc. Elle est partenaire avec des pays comme l'Algérie, etc. Elle a pas du tout intérêt à ce que la situation explose. Et si on veut continuer à exploiter les richesses de ce coin-là, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Donc, quelles sont ces richesses? Alors, si on parle de ressources énergétiques, mais pareil, là, je vais être caricatural et puis forcément incomplet, mais vous avez par exemple, d'une part, les ressources qui sont déjà exploitées, donc notamment au Niger, par exemple, hein, ça se passe pas très loin du Niger et pas très loin de la des mines d'uranium, etc. Et donc de l'approvisionnement en uranium de la France et donc du coup de notre électricité, quoi. Donc il y a pas.
Je crois que c'est beaucoup, non, la quantité
d'uranium.
Alors
c'est 30% de l'uranium français, enfin utilisé en France dans l'eau centrale, provient du Niger.
Donc c'est une proportion vitale, c'est énorme.
C'est une proportion vitale. Donc voilà, ces groupes terroristes peuvent très bien aller attaquer les
perturber
l'exploitation, etc. Il se trouve qu'actuellement c'est des hommes de l'armée nigérienne, donc c'est l'armée nigérienne qui assure la protection notamment de la mine d'Arlit, etc. Dernièrement, et je crois que c'est aujourd'hui, j'ai entendu ça, Jean-Claude Le Drian, le ministre de la Défense, a dit qu'il avait autorisé le COS, donc le commandement des opérations spéciales, les sortes de, on va dire, de la Delta Force ou les commandos de marine français, quoi. Donc les troupes d'élite françaises vont aller sécuriser, et c'est la première fois, vont aller sécuriser les sites d'Areva. Ce qui fait que donc clairement, c'est le contribuable français, l'armée française, qui va sécuriser des sites gérés par des entreprises privées. Donc ça, c'est plutôt assez important. Vous avez aussi la Mauritanie où il y a des hydrocarbures que Total va exploiter, etc. Donc il faut pas que
d'une contagion finalement.
Voilà, peur d'une contagion. Au Niger, le problème, c'est qu'on est en train de défendre ce qui est en train d'embêter grandement les populations touareg. Il faut savoir que la plupart de ces zones, ces mines, sont des mines à ciel ouvert, qu'elles sont situées dans des territoires qui sont en grande partie occupés par des touaregs, et qu'on va non seulement les chasser, mais que voilà, risque de contamination radioactive de leurs terres, etc. Donc finalement,
on les empêche de circuler comme ils voudraient.
Et Et après, on viendra s'étonner.
Et puis on les pollue.
Voilà, on va les polluer, etc. Et après, on va venir s'étonner en disant, mais pourquoi est-ce que les Touaregs veulent se rébeller, quoi. Voilà, finalement, on est en train d'auto-entretenir les choses, quoi. Et deuxième point, c'est toujours dans les ressources énergétiques, c'est les ressources énergétiques potentielles. A priori, la zone sahélique serait une réserve importante d'hydrocarbures non encore exploitées. Et finalement, intervenir, ça permet aussi de placer ses pions et d'être déjà là.
Oui. Puis on est toujours vos amis, nous oubliez pas. Voilà. Faudrait qu'on passe avant d'autres clients potentiels qui
comme
pourraient
les
être
Chinois,
les États-Unis,
les Chinois,
qui sont beaucoup investis en Afrique ces derniers temps.
Après, alors vous avez quoi au niveau du Mali? Vous avez Bouygues qui gère l'électricité, qui est sous-traitant aussi de AngloGold, la société minière canadienne qui extrait l'or. Vous avez Dagris qui a récupéré une partie de la filière coton au moment des plans d'ajustement structurel. Vous avez Orange qui a récupéré une grande partie de la téléphonie. Vous avez Bolloré, etc. Donc
il y a du beau monde quand même.
Il y a quand même du beau monde, mais comme finalement dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, quoi. Voilà pour ce qui est des intérêts. Et encore une fois, voilà, je suis certainement incomplet, etc., quoi.
Sur ces bases militaires que la France a dans ces pays, c'est sur les des accords avec les gouvernements de ces pays. C'est quelque chose d'accepté.
Alors, il faut savoir qu'au moment des indépendances africaines, il y a des accords de défense qui ont été secrets, accords de défense qu'on dit secrets, qui ont été signés, pardon. Accords de défense, donc, qu'on dit secrets. Secrets parce qu'ils comportent des clauses qui n'ont jamais été publiées. Globalement, que stipulaient ces accords, parce que depuis, il y en a certains qui ont été renégociés, etc., mais ils stipulaient que l'armée française devait intervenir en cas d'attaque extérieure sur ces pays-là, en échange de facilité et d'une priorité sur l'accès aux matières premières. Si on caricature, c'est un peu une sorte d'assurance-vie pour dictateur. On vous maintient au pouvoir si quelqu'un vient vous embêter. En échange, vous nous permettez de piller vos richesses. Donc ils sont secrets parce que les clauses n'ont pas été publiées. Ça s'est signé au moment des indépendances sans que les parlements français et des pays d'Afrique concernés soient associés, ce qui fait que
ça s'est passé dans le dos de la démocratie.
Ça s'est passé dans le dos de la démocratie, mais comme la plupart finalement des décisions liées à la France-Afrique, quoi. Si vous regardez l'intervention française au Mali, si elle fait consensus au sein de la classe politique française, à aucun moment elle n'est passée devant le Parlement. Il y a eu une discussion au Parlement, mais sans vote, et au moment où ça s'est déclenché, c'est l'exécutif tout seul qui a décidé.
Ah ouais,
et
c'est énorme.
Toutes les interventions françaises en Afrique sont calquées sur ce modèle-là, c'est-à-dire que le président décide qu'il intervient ou pas. Et le gouvernement, le Parlement, c'est-à-dire dans notre démocratie imparfaite, l'émanation de notre volonté, n'est jamais consulté. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc effectivement, voilà, ces accords de défense font qu'il y a des liens très forts, et font surtout que finalement, et ça a été notamment le cas de la Côte d'Ivoire, etc., ces pays-là n'avaient pas besoin de développer une armée. Et finalement, les armées africaines n'ont quasiment jamais servi dans des conflits interétatiques. La plupart du temps, ces armées africaines, les présidents s'en sont servis comme force de répression
sur leur propre population,
quoi. Donc faut voilà, quoi.
Donc encore une fois, c'est pas qu'ils savent pas faire, c'est que on a organisé les choses pour qu'ils aient pas d'armée.
Voilà, quoi. Disons que c'était beaucoup plus simple que ça. Et voilà, pendant très longtemps, par exemple, l'armée ivoirienne, c'est la France, quoi. Quand en 2004 la France détruit la chasse ivoirienne suite au bombardement du camp de Bouaké, un camp militaire français, par la chasse ivoirienne, elle détruit 5-6 avions. L'aviation de chasse ivoirienne, c'est 5-6 avions, quoi. Voilà. Je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais l'armée malienne, c'est 7000 hommes. C'est environ 7000 hommes. Donc, pour sécuriser un territoire qui est grand comme plusieurs fois la France et qui est désertique,
c'est n'importe quoi.
C'est un petit peu compliqué, quoi.
Et on a parlé, voilà, urgence, il ne reste pas beaucoup de temps, que, voilà, à chaque fois aussi on agit dans l'urgence, donc en demandant à personne.
Voilà, l'idée,
mais est-ce qu'il n'y a pas eu, à un moment, où est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir, est-ce que c'est justement pas ça qui manque, des processus qui fassent qu'on puisse résoudre des problèmes autrement que par une intervention armée, mais par, par aider des pays à avoir une vraie force politique, des vrais États. Et du dialogue, quoi.
Ce qu'il faut voir, dans le cas du problème malien, donc je vous ai dit, il y a eu une sorte de vide constitutionnel, avec un État bicéphale, mais finalement, enfin, deux têtes, mais aucun cerveau dedans, quasiment, quoi. Le problème, c'est que, au sein de la société civile malienne, au sein de l'opposition malienne, etc., et des forces politiques maliennes, devant la situation un petit peu catastrophique, en dehors du fait que, au nord, il y avait les rébellions, etc., mais devant ce vide constitutionnel, il y a eu des tentatives de négociation, etc., mais qui ont été à chaque fois, on va dire, presque torpillées par la CEDEAO. La CEDEAO, donc la...
Les autres chefs d'État ouest-africains.
Sous la poussée de la France, c'est-à-dire que la France, finalement, indirectement, n'a jamais poussé
à la négociation
et à la reconstruction d'un État, d'un vrai État malien qui pourrait ensuite soit gérer tout seul, soit négocier, etc. Donc on n'a pas permis ça et on dit maintenant, et on intervient
en
disant...
On est indispensable.
Ils ne sont pas capables de faire.
Voilà, c'est l'urgence, on est indispensable, il faut le faire. Donc voilà, c'est un peu...
Je crois que ce sera le mot de conclusion. Bon.
Merci de cet éclairage.
De rien, merci à vous et puis...
À dans 15 jours. Jesus promised, don't do it, y'all!